Vous écoutez On lit pour vous. Les réseaux sociaux sont-ils devenus trop toxiques pour les adolescents? Un texte de Caroline Lavigne, paru le 18 juin 2026 dans Fugue. Encore plus qu'au Canada, la question prend une ampleur grandissante au Royaume-Uni. Face aux préoccupations liées à la santé mentale, à la cyberintimidation, à la misogynie en ligne et à la diffusion de contenus problématiques, plusieurs élus britanniques militent pour une interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Le premier ministre, Keir Starmer, s'est montré ouvert à l'idée d'un resserrement important des règles encadrant l'utilisation des plateformes numériques par les mineurs, estimant que les géants technologiques doivent être davantage tenus responsables des contenus auxquels les jeunes sont exposés. Mais cette proposition soulève aussi des inquiétudes, notamment au sein des communautés LGBTQ+. Car, pour de nombreux adolescents queer, Internet n'est pas seulement un lieu de divertissement. C'est parfois l'un des rares espaces où ils peuvent trouver du soutien, de l'information et un sentiment d'appartenance. Un débat qui traverse aussi le Canada et le Québec. Le Royaume-Uni n'est pas le seul à réfléchir à un encadrement plus strict des réseaux sociaux pour les mineurs. Au Canada, le gouvernement fédéral a récemment présenté un projet de loi visant à mieux protéger les jeunes utilisateurs des plateformes numériques. Ottawa s'inquiète notamment de l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale, de la cyberintimidation, de l'exploitation sexuelle en ligne et de l'exposition à des contenus haineux ou extrémistes. Sans aller jusqu'à une interdiction immédiate et généralisée, plusieurs élus fédéraux ont évoqué la possibilité de renforcer les mécanismes de vérification de l'âge et d'imposer davantage d'obligations aux géants du numérique. Au Québec, le gouvernement suit également le dossier de près. Des consultations, rapports d'experts et débats parlementaires ont mis en lumière les effets parfois préoccupants des réseaux sociaux sur les jeunes. Plusieurs spécialistes de l'éducation et de la santé publique réclament un meilleur encadrement de l'utilisation des écrans et des plateformes numériques chez les adolescents. Comme au Royaume-Uni, ces réflexions s'accompagnent toutefois d'une question fondamentale. Comment protéger les jeunes sans les priver d'outils qui peuvent aussi jouer un rôle positif dans leur développement? Une génération qui grandit en ligne. Depuis une quinzaine d'années, les réseaux sociaux ont profondément transformé la manière dont les jeunes découvrent leur identité. Pour plusieurs personnes LGBTQ+, les premières discussions sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre n'ont pas lieu à l'école ou dans la famille, mais sur YouTube, TikTok, Instagram, Discord ou Reddit. Dans certains milieux ruraux ou conservateurs, ces plateformes permettent d'accéder à des témoignages, à des ressources éducatives ou à des communautés qui seraient autrement inexistantes dans l'environnement immédiat des jeunes. Les organismes de soutien aux personnes LGBTQ+, soulignent régulièrement que cet accès à des réseaux de pairs peut contribuer à réduire l'isolement, particulièrement chez les adolescents qui ne se sentent pas encore en sécurité pour parler ouvertement de leur identité. Un débat qui divise les experts. Personne ne conteste que les réseaux sociaux comportent des risques. Les chercheurs s'inquiètent depuis plusieurs années de l'exposition des jeunes à la désinformation, à la haine en ligne, au harcèlement, aux contenus misogynes ou extrémistes, ainsi qu'aux effets potentiels sur la santé mentale. Des enquêtes récentes ont notamment mis en lumière l'influence croissante de certaines communautés masculinistes et antiféministes auprès des adolescents. Pour plusieurs responsables politiques, limiter l'accès aux plateformes apparaît donc comme une mesure de protection. D'autres experts estime toutefois qu'une interdiction générale risque de créer de nouveaux problèmes sans nécessairement régler les anciens. Il rappelle que les réseaux sociaux ne sont pas uniquement des espaces de danger, mais également des lieux de socialisation, d'apprentissage et de soutien. Les jeunes contourneront-ils les interdictions? Une autre question revient fréquemment dans le débat. L'efficacité réelle d'une interdiction. Les spécialistes du numérique soulignent que les adolescents ont souvent une grande capacité à contourner les restrictions technologiques. Utilisation de réseaux privés virtuels, VPN, création de faux profils ou emprunt des identifiants d'adultes. Plusieurs méthodes permettent déjà de contourner certaines vérifications d'âge mises en place par les plateformes. Selon plusieurs observateurs, le risque est que les jeunes continuent d'utiliser les réseaux sociaux, mais dans des environnements moins encadrés ou moins sécuritaires. Les jeunes LGBTQ+, particulièrement concernés. Pour les adolescents LGBTQ+, la situation présente une complexité supplémentaire. Au cours des dernières décennies, les espaces communautaires destinés aux jeunes ont diminué dans plusieurs régions du Royaume-Uni. Les groupes de soutien, les centres jeunesse et certains programmes communautaires ont vu leurs ressources réduites ou disparaître complètement. Cette réalité n'est pas totalement étrangère au Canada. Même si plusieurs organismes communautaires LGBTQ+, offrent des services destinés aux jeunes, leur accessibilité demeure inégale selon les régions. Pour un adolescent vivant dans une petite ville ou dans un milieu moins ouvert à la diversité sexuelle et de genre, Internet peut parfois constituer le premier point de contact avec une communauté accueillante. Dans ce contexte, les réseaux sociaux sont devenus pour plusieurs un complément important à la vie hors ligne. Cela ne signifie pas qu'ils sont exempts d'homophobie ou de transphobie, bien au contraire. Des organismes comme le GRI et Interligne ont récemment dénoncé la montée des discours haineux sur certaines plateformes, notamment à l'égard des personnes transgenres. Cependant, plusieurs intervenants rappellent qu'il demeure souvent plus facile pour un jeune LGBTQ+, isolé, de trouver du soutien en ligne que dans son environnement immédiat. Entre protection et accès. Au fond, le débat qui se déroule aujourd'hui au Royaume-Uni, au Canada et ailleurs dans le monde oppose deux objectifs tout aussi importants. D'un côté, les gouvernements cherchent à protéger les jeunes contre les effets négatifs bien documentés de certaines plateformes. Cyber-intimidation, désinformation, dépendance, harcèlement, exploitation ou exposition à des contenus haineux. De l'autre, plusieurs intervenants rappellent que les réseaux sociaux demeurent, pour de nombreux adolescents, un outil de socialisation, d'apprentissage et parfois même de survie psychologique. Cette réalité est particulièrement présente chez les jeunes LGBTQ+, qui trouvent souvent en ligne des modèles, des communautés et des ressources qu'ils ne retrouvent pas toujours dans leur milieu immédiat. Pour plusieurs spécialistes, la solution passera probablement moins par une interdiction totale que par une combinaison de mesures. Meilleure modération des contenus, vérification de l'âge plus efficace, responsabilisation des plateformes, éducation numérique et soutien accru aux ressources communautaires hors ligne. Car si les réseaux sociaux peuvent parfois exposer les jeunes à des risques bien réels, ils représentent aussi pour plusieurs adolescents queer une fenêtre sur un monde où ils peuvent se sentir compris, soutenus et moins seuls. C'est cette nuance entre protection et accès, sécurité et inclusion, qui alimente aujourd'hui le débat autant à Londres qu'à Ottawa, Québec ou ailleurs en Occident. C'était « Les réseaux sociaux sont-ils devenus trop toxiques pour les adolescents ?» un texte de Caroline Lavigne, paru le 18 juin 2026 dans Fugue.
Chanter de l'opéra pour contrer le brouillard cérébral de la chimiothérapie. Un texte de Jean-Benoît Legault, paru le 9 novembre 2025 dans l'actualité. Montréal. Des patients soignés en chimiothérapie sont invités à s'initier au chant choral pour contrer le brouillard cérébral souvent engendré par leur traitement dans le cadre d'un projet dirigé par l'équipe interdisciplinaire Art et santé du Centre de recherche Charles Lemoine. Ce projet s'appuie sur des études scientifiques qui suggèrent que la pratique du chant choral chez les personnes touchées par un cancer contribuerait à un mieux-être. On voulait voir la faisabilité et l'accessibilité de faire du chant de groupe basé sur l'opéra avec les personnes qui ont une expérience de brouillard cérébral, a expliqué la docteure Catherine Padry, qui est oncologue et co-gestionnaire médicale du Centre intégré de cancérologie de la Montérégie, qui a initié le projet. Cette étude, a-t-elle ajouté, semble être la première en son genre au Québec, même si des initiatives similaires ont été mises en place ailleurs dans le monde. Le but est donc de mesurer la faisabilité et l'acceptabilité de la chose, a dit la docteure Padry. Est-ce que c'est acceptable pour les professionnels de la santé de suggérer et d'expliquer ça à leurs patients? Est-ce que les participants vont être timides? Est-ce qu'ils vont vouloir chanter? Est-ce qu'ils vont vouloir s'associer à l'opéra? Est-ce que ça sera intimidant? Et finalement, est-ce qu'on a des bénéfices sur les différents symptômes, a-t-elle énuméré? Les 16 personnes recrutées participent pendant 24 semaines à une chorale sous la direction de la soprano et chef de chœur Myriam Leblanc. Les participants complètent une évaluation avant et après chacune des séances et à 4 reprises pendant le projet portant sur leur perception du brouillard cérébral, leur bien-être et l'expérience du chant choral. Le projet de recherche vise à étudier les effets du chant choral sur la santé physique et mentale, ainsi que sur la qualité de vie et à mieux comprendre les mécanismes qui produisent ces effets, puisqu'on estime que le brouillard cérébral affecte jusqu'à 75% des patients et qu'il peut parfois être ressenti jusqu'à 10 ans après la fin du traitement. Les troubles cognitifs sont extrêmement variés, mais souvent, ce qui est relaté en premier, ce sont souvent des troubles de concentration, des troubles d'attention, des troubles de mémorisation, bref, des choses qui ont un impact extrêmement important, a dit la docteure Padry, qui admet d'emblée que la science ne comprend toujours pas pourquoi la chimiothérapie cause ce brouillard cérébral. Le tout est extrêmement confrontant sur l'estime de soi, les capacités, les relations avec la famille, les enfants, le conjoint, les collègues, l'ensemble de la vie de la personne. Et c'est pour ça qu'on essaie de dire oui. Il y a peut-être certaines choses qui peuvent aider, dont le chant choral, a-t-elle ajouté. On ne dispose que de peu de traitements pharmacologiques pour combattre le brouillard cérébral secondaire à la chimiothérapie. Cependant, a-t-on indiqué par voie de communiqué, l'Organisation mondiale de la santé rapporte que plusieurs interventions non pharmacologiques telles que la rééducation cognitive, l'exercice physique et les interventions psychosociales ont montré des résultats positifs. On a approché les patients en leur disant que ça pourrait les aider à mieux respirer ou à se recentrer, que ça allait pratiquer leur mémoire d'apprendre de nouveaux chants, a dit la docteure Padry. Il n'y a pas de garantie de traitement. Ce n'est pas une molécule. Mais en même temps, c'était démontré que ça peut aider pour le bien-être, réduire l'anxiété, et ce sont des choses qu'on démontre avec l'étude. Mais pour que ça fonctionne, il fallait aider les participants à surmonter l'aspect un peu intimidant de l'opéra en choisissant des chœurs d'opéra qui sont entendus un peu partout, a précisé Pierre Vachon, dont le programme Action sociale et éducation à l'Opéra de Montréal a inspiré le projet. C'est vrai que l'opéra ne vient pas nécessairement naturellement à des gens qui vont aller voir Taylor Swift ou Céline Dion, a-t-il admis. La particularité, c'est de chanter des chants d'opéra, donc, oui, il y a un défi supplémentaire, une difficulté supplémentaire en termes de chanter, aussi la gêne de chanter en chorale. Pour le moment, a ajouté M. Vachon, on constate une adhésion unanime des participants au projet et ceux qui ratent une séance le font habituellement pour des raisons de santé. On sent le bonheur de chanter en chœur, le plaisir d'être ensemble, a-t-il dit. On sait que la musique et le chant choral, ça rallie bien les gens. Il y a un phénomène de cohésion sociale aussi, de socialisation, et ça, c'est parmi les premiers bienfaits lorsqu'on fait de la musique. L'occasion de socialiser avec des gens qui doivent eux aussi composer avec le brouillard cérébral est d'ailleurs fréquemment évoquée par les participants, a dit la responsable du projet, Dominique Tremblay, qui est professeure à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke et chercheure régulière au Centre de recherche Charles Lemoyne. « Il y a une espèce de honte à dire qu'on a des symptômes, qu'on n'est plus comme avant », a dit Mme Tremblay. Les participants trouvent que ça leur fait du bien d'être capables de partager avec des personnes qui vivent des choses semblables. Il n'y a pas de jugement dans le groupe parce que tout le monde vit la même chose, donc ça devient un lieu de soutien et de discussion. Une participante trouvait son brouillard cérébral tellement lourd à porter qu'elle avait commencé à systématiquement tout noter dans son cellulaire, a relaté Mme Tremblay. Le chant choral lui a permis de constater qu'elle n'est pas toute seule, a-t-elle ajouté. Ça aide les participants à retrouver une certaine normalité, a conclu Mme Tremblay. Le but, c'est de trouver un moment de plaisir et de pratiquer des choses, de respirer, de se déposer et d'aller un peu à l'intérieur de soi. C'était chanter de l'opéra pour contrer le brouillard cérébral de la chimiothérapie. Un texte de Jean-Benoît Legault, paru le 9 novembre 2025 dans l'actualité.
Le temps est un fleuve. Un texte de Monique Durand, paru le 4 juillet 2026 dans Le Devoir. Tadoussac, mars 2026. Pas le moindre vent, pas un frisson, pas un souffle. Le fleuve est du temps qui se repose avant de repartir. Son eau coule, toujours différente, toujours relayée par une autre. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, écrivait le philosophe grec Héraclite, 5 siècles avant notre ère. Le temps est un flux incessant, un fleuve sans fin où glisse un grand bateau portant l'humanité à son bord. Et Tadoussac est un lieu presque irréel de mémoire et de beauté. J'ai lu des philosophes, des historiens, des sociologues, des anthropologues, des astrophysiciens, des psychologues, des spécialistes de tout poil pour tenter de m'y retrouver. Que suis-je venu faire dans la galère du temps? Je me demande encore ce qui m'a pris. J'écris ces mots en souriant. Le sujet, à vrai dire, m'effrayait doucement, en raison de son énormité, de sa complexité. Mais peut-être surtout parce que le temps, c'est celui qui passe, fuit, déboule, dégringole du piédestal de la vingtaine innocente où il était juché. C'est celui qui nous reste, qui ne se rattrape plus. Commençons par le commencement. Le Robert définit ainsi le temps. Continuité indéfinie, milieu où se déroule la succession des événements. Et puis, le Larousse, à sa façon, mouvement ininterrompu par lequel le présent devient le passé. Mais on pourrait dire que le temps, affirme le physicien Étienne Klein, c'est ce qui fait que tout instant présent, dès qu'il apparaît, est remplacé par un autre instant présent. le philosophe Marcel Conche enfonce le clou. Quoi qu'il y ait dans l'avenir, le temps en fera du passé. Démonstration par A plus B que le temps est difficile, voire impossible à définir. D'après certains scientifiques, il aurait commencé à la naissance de l'univers, que bien des experts situent lors du Big Bang, il y a plus de 13 milliards d'années. Personne ne sait s'il finira un jour. L'idée du temps reste une question majeure posée à la science, mais également posée à la philosophie. Parce qu'il fixe des limites à nos existences et qu'on se sent impuissant devant sa fuite inéluctable et son caractère irréductible. On ne peut ni le faire reculer ni le faire avancer. Le grand astrophysicien québécois Hubert Reeves disait du temps qu'il ne savait rien en dire. On ne pense pas le temps, on le sent. Retour à Tadoussac. Je vois des canots, des corses et de bois, des goélettes et des trois-mâts, des barques à voile et à moteur, des rafiots, des barges et des remorqueurs, de longs cargos rouges et rouillés cabotant sur nos bonheurs et nos misères, nos victoires et nos défaites. Le fleuve, notre principe vital, notre épine dorsale, ici, s'appelle presque déjà la mer. Le Saint-Laurent a porté notre histoire. Il est de s'en mêler avec le temps. La nature est peut-être la plus belle forme du temps, écrit Pascal Quignard dans Les Heures heureuses. C'est le temps qui, déversé du fond du ciel, assure le cycle immense des saisons. C'est une lumière moutarde d'automne dans le cri des outardes. C'est un matin de neige tendre où tout s'est apaisé. C'est la première hirondelle, la vraie, celle qui fait le printemps, lancé dans ces figures géométriques au-dessus de nos têtes. Le cœur nous manque. Ce sont deux petits qui se baignent pour la première fois de leur vie dans un lac, celui des deux montagnes au parc national d'Oka, des flotteurs orange au bras. Ils ont 2 ans, Léo et Jade, en couche de bain. On craque devant leur joie. Plouf! Ils se laissent choir à plat ventre dans les vaguelettes. Ils ont tout leur temps, le temps d'une vie. L'enfant explore, apprend, chute, recommence, lentement, écrivent Julie Caillot et Sylvana M. Côté dans la dernière version de L'État du Québec. L'enfance ne file pas plus vite parce que le monde s'emballe. Et Dieu sait qu'il s'emballe, notre monde. Comme l'enfance, la vieillesse avance au petit trot. La lenteur est son domaine, quand tout le reste galope. C'est peut-être dans l'expérience du vieillissement que le temps manifeste d'abord son étrangeté, avance Alban Gonnor, qui a publié un recueil de grands textes sur le sujet. Cette épreuve du temps dans sa chair avec laquelle il faut vivre, personne ne peut s'y soustraire. Je pense aux réflexions du sociologue français Edgar Morin, qui s'est éteint il y a peu, à 104 ans. Ce qui le stupéfiait n'était pas tant d'avoir vécu si longtemps que d'être encore vivant parmi les oiseaux, les arbres, le vent. « Et le plus étonnant, écrivait-il, c'est que l'on s'étonne si peu de vivre. » Tadoussac. Le temps, c'est aussi la plus vieille chapelle en bois d'Amérique du Nord, la chapelle dite des Indiens, sise ici même. La première y fut érigée en 1617, faite d'écorce, disparue. Celle d'aujourd'hui remonte à 1747, classée Monument historique national en 1965. Cernée de neige en cette saison, elle est fermée aux visiteurs. Je balaie la neige avec ma mitaine et m'assois sur un banc de bois juste en face de sa porte à 2 battants. Les images qui reviennent le plus souvent pour représenter le temps sont celles du fleuve, qui inlassablement s'écoule, puis celles du cercle, embrassées dans plusieurs cultures autochtones. Pour ces dernières, le temps n'est pas une ligne droite, mais un mouvement qui se répète, comme tournent les saisons et les générations. Enfin, celle de la musique. Oh, la musique, aux effets sur nous aussi mystérieux que le temps. C'est Marie-Jo Thériault à l'Outremont en décembre dernier, envoûtante comme un mantra, portant dans sa voix l'épicentre du monde. C'est Émile Gilel avec son arabesque de Schumann, un soir de 1976 à Moscou. Les spectateurs boivent comme un lait le temps aboli. Leur souffle forme une rivière se mouvant jusque dans la nuit profonde de la salle. Le temps de Schumann s'écoute peut-être aux yeux fermés. Le temps du fleuve, lui, s'écoute aux yeux ouverts. Juste dire merci, c'est tout. Le temps s'est immiscé dans le langage courant, explique le professeur de psychologie Simon Grondin, toujours dans l'État du Québec 2026. Il est parfois libre, fort ou mort. On en perd, on le tue, mais on se plaint d'en manquer. Et il se trouve en proche parenté avec l'idée de l'attente. Celle, éperdue, d'une déclaration d'amour. Celle, insupportable, d'un diagnostic redouté. La nouvelle d'un accouchement. On attend la délivrance. On pousse avec elle. La géniale et regrettée chanteuse Anne Sylvestre m'avait confié un jour que l'attente, pour elle, c'était, toute petite, l'interminable séjour de son père en prison, coupable d'avoir collaboré avec les Allemands. Je n'ai jamais oublié. Oublier, se souvenir, espérer, se projeter, tout cela renvoie de quelque façon au temps, renchérit Alban Gonard. Le temps a aussi partie liée avec la notion de durée. Dans un monde où tout paraît périssable, nos ordinateurs aussi bien que parfois nos amours, je pense au dur désir de durée du poète Paul Éluard. Durée dans cette petite place que l'on s'est faite au milieu de l'univers. Durée ne serait-ce qu'un peu, un brin. Encore un moment, monsieur le bourreau, aurait demandé la comtesse du Barry à son exécuteur avant d'être guillotiné à Paris, le 8 décembre 1793. Peut-être laisser quelques traces enfouies dans le cœur et l'esprit de celles et ceux qu'on a aimés et qui nous survivront. Car le temps nous enlace les uns aux autres dans un fil ininterrompu qui nous précède et nous prolonge. Tadoussac, la lumière de la baie s'éteint avec le jour qui ploie. Le temps n'est plus une succession de secondes et d'heures, mais un fleuve qui poursuit sa course irradiante vers la mer. Je reste assise encore de longues minutes sur mon banc de bois, le banc du temps qui passe. C'était « Le temps est un fleuve », un texte de Monique Durand paru le 4 juillet 2026 dans Le Devoir.